David, dans une chronique que tu as fait paraître dans Le Devoir du 28 mars, qui, je crois, s'intitulait « Encore la même chronique », tu annonces qu'il n'y a plus de nous. Et puis, donc, ça m'a frappé, cette chronique-là, parce qu'en même temps, quand on te lit depuis longtemps, on se sent inclus, on sent que tu t'inclus dans un « nous » auquel nous, lecteurs, on s'identifie.
Ouais.
Mais tu, dans une chronique que tu as encore, que tu intègres, excusez-moi, là. C'est le trou normand, là, c'est ça. Là.
Tu manques de vin.
Tiens, prends-toi une gorgée, ça va aller mieux.
À la santé de mon hépatite. Donc, il y a ce « nous » dans tes chroniques, puis du côté de ton œuvre, Jean-Jacques, on sent que, en tout cas, j'ai senti qu'il y a des individus et une masse. C'est des individus qui sont soit aux prises avec une masse ou qui sont dans une position pour contrôler la masse. Donc, j'avais envie d'explorer un peu le sujet, le « nous » versus la masse, avec vous. Là.
Comme étant une entité à part de la masse, là, donc une élite ou quelque chose du genre?
Mais c'est-à-dire que quand tu dis « nous », tu t'inclus nécessairement dans une masse. Tandis que quand tu dis « la masse », tu t'exclus.
OK, ouais, je comprends ce que tu
veux. Puis parfois, David, dans tes chroniques, tu t'inclus, puis parfois tu t'exclus. Oui. Tu portes un regard. Mais sauf que tu n'utiliseras pas les mêmes termes. Tu vas dire « nous » quand tu t'inclus, puis tu vas dire « le système ». Dans ta chronique, tu parles de la violence du système. Tu vas dire « vous, ouais, vous autres
ouais. ».
Ah, puis d'ailleurs, c'est ça, dans ta chronique sur l'amphithéâtre, là, tu disais, tu t'adresses, là, il y a un « je », il y a un « tu ». Sauf que le « je », c'est un « nu », un « nous », et puis, tu sais, bon.
Le « je », c'est un « nu », ah bon.
Ça va bien, ça va bien.
C'était un excellent lapsus.
On est nu dans le système.
On va se servir, là.
Donc, mais dans l'œuvre de Jean-Jacques, je disais que c'était des individus contre la masse, là, mais des individus qui sont quelque part de l'autre côté du mur, celui qui nous empêche de voir les rouages d'un système qui broie le « nous », un mur que la fiction permet à Jean-Jacques de traverser. Donc, le « nous », la masse et le système, trois notions qui me semblent centrales chez vous deux, en fait. Donc, je vais adresser d'abord ma question à Jean-Jacques Pelletier.
Let's go!
Est-ce qu'il existe un « nous » dans votre œuvre ou dans votre conception personnelle de la société?
Je t'écoutais, puis je me suis rendu compte, souvent, les questions des gens nous obligent à voir des affaires. Puis effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, là, c'est une question que je trouve bien intéressante, parce que si tu prends dans l'œuvre de Jean-Paul Sartre, dans un de ses livres les plus obscurs, Sartre qui a dit, par ailleurs, beaucoup de bêtises quand il s'est agi d'action pratique. Au niveau théorique, il y avait des fois des bonnes idées. À un moment donné, il a décidé d'expliquer c'est quoi la différence entre deux types de « nous ». Tu as le « nous » de la file d'autobus. Des gens qui sont réunis par quelque chose qui n'ont aucun projet commun, c'est quelque chose d'extérieur à eux qui est réuni. Puis tu as des « nous », j'appelle ça le groupe sériel, la série. Puis il y a le « nous » qui est identifié par, qui se construit par un projet commun, qui les anime tous. Donc, qui est uni intérieurement par quelque chose auquel ils participent vraiment. J'ai l'impression que l'écriture, que ce soit l'essai, le roman, que l'ensemble des œuvres d'art crée des « nous » que lui appelle de groupe en fusion, c'est-à-dire un nous de participation, et que ça, on a de plus en plus besoin dans un monde où on est de plus en plus sériel, c'est-à-dire des rangées de consommateurs qui vont tous se battre entre eux pour avoir la première place dans l'autobus, rentrer au Boxing Day, être un des huit qui a les quatre, un des huit qui va avoir les huit articles restants alors qu'ils sont 40 dans la ligne d'attente. Alors, je pense que la littérature, les autres formes d'art, ça crée des « nous ». Et c'est pour ça que souvent les gens vont vont aimer les choses dans lesquelles ils reconnaissent des choses d'eux, ils vont se sentir moins seuls à se reconnaître là-dedans.
Mais le « nous » dont je parle, qui me semble plus exister, puis qui reste peut-être dans des œuvres comme ça, puis c'est le « nous » sociétal. C'est une espèce de projet de société qui serait autre chose que d'être une société qui fonctionne un peu sur le pilote automatique. Puis quand je dis qu'il n'y a plus de « nous », bien, c'est une façon de dire finalement qu'il n'y a plus ce projet, il n'y a plus d'autre projet que celui d'acheter justement que ce « nous » sériel-là finalement. C'est ça que moi je trouve terrifiant. C'est ça qu'on voit quand il y a une espèce de désaffiliation, puis où il n'y a pas, il y a d'aucune manière, on sent qu'il y a une sympathie de la part d'une importante partie de la population pour un projet social commun, autre que travailler à être un rouage de la machine pour satisfaire ses besoins personnels, dont on nous fait croire qu'ils sont des vrais besoins personnels qu'on a nous-mêmes spontanément, alors qu'on sait bien que c'est pas le cas. Merci.
En même temps, il n'y a pas juste un nous, il y a comme
il y a
des nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut réduire ça à différents groupes, plus petits groupes de nous, que ce soit.
Mais c'est parce que ce qui construit un nous, c'est un projet. Et si ton seul projet dans la vie, c'est t'occuper de toi, d'avoir le plus de toutes les petites affaires que tu veux. C'est sûr que tu vas te sentir isolé. Plus tu vas te sentir isolé, plus tu vas pouvoir compenser ton isolement en essayant d'accaparer plus de choses.
Mais moi, je trouve même la notion de la famille aujourd'hui, la notion de la famille aujourd'hui est devenue un truc qui tourne autour de soi-même. C'est-à-dire, ses enfants, avoir des enfants, c'est un projet. On considère nos enfants comme un projet. On les protège parce que c'est notre projet. On espère qu'ils ne deviendront jamais des adultes parce que c'est notre projet qui va nous quitter.
Projet ou propriété?
Bien, ton projet, c'est un peu ta propriété aussi. Ça t'appartient, c'est ton trademark dessus, tu sais, c'est à toi. Mais même dans ça, alors les gens vont dire, oui, mais j'ai une famille, puis oui, mais regarde comment tu gères, tu gères ta famille, c'est exactement ça. Regarde comment tu gères ta famille. Tu vas te rendre compte que ça participe de la même idéologie, tu sais. Et donc, même dans la sphère privée, qui devrait être le dernier refuge de cette humanité-là, bien, de plus en plus, on n'est pas dans le « nous », justement. On est dans le « soi ». On gère la famille comme on veut, tu sais, comme nous, ça nous chante, comme nous, on pense qu'elle devrait être menée.
Je vais vous lire un extrait de ta dernière chronique, David. Entre le Mongol qui brandit une scie à chaîne devant une petite famille dans un accélérage au volant et la femme qui refuse de vous laisser un espace sur la route, le regard braqué devant elle, il y a un monde, mais une colère commune, un refus momentané d'un code qui ressemble parfois à un jeu de dupes où l'on ne gagne à rien à être gentil. Donc c'est une chronique sur la politesse.
Ouais.
Surtout quand tous les jours, banquiers ou politiciens nous arnaquent en dégoulinant de politesse, quand les employeurs trempent leur mépris pour le personnel dans une révoltante déclinaison d'usages faussement cordiaux imaginés par les grands penseurs des ressources humaines. Et si cette incivilité est le signe du déclin de la civilisation, c'est seulement parce que celle-ci s'est révélée d'une intolérable sauvagerie, qu'elle récolte ce qu'elle a semé, la violence qu'impose ce système social à ses maillons faibles. Que reste-t-il des valeurs familiales?
Des valeurs familiales? Des valeurs familiales au sens de la communauté ou des valeurs familiales au sens de la famille?
La famille, c'est une communauté.
Ouais. Ben, je sais. Tu sais, tantôt, on parlait, je parlais de mon idée de la bourgeoisie. C'est peut-être un idéal qui n'a jamais existé, mais dans ma tête, les gens qui ont un certain pouvoir, ils ont aussi des responsabilités. Puis. Les gens qui sont fortunés, les gens qui ont des entreprises, les gens qui ont la chance d'avoir des employés qui travaillent pour eux, qui leur font faire de l'argent, qui les enrichissent, bien, ils ont aussi la responsabilité de traiter ces gens-là humainement. Et nous, autour, dans nos rapports quotidiens, on a la responsabilité aussi de faire preuve d'humanité comme ça, mais j'ai l'impression que dans le système, tout conspire pour que on soit toujours en colère parce qu'on a le sentiment que quelqu'un, quelque part, nous arnaque et donc que c'est son voisin et donc que c'est la personne à côté de soi qui est en train de profiter quelque chose à la place de soi, que la personne en avant de soi dans la file, que l'employé est en train de nous abuser, puis que l'argent qu'on lui donne, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans ses poches, et que partout autour de nous, tout conspire à nous faire perdre, à nous faire échouer, à nous empêcher d'obtenir ce qui nous est dû. Et dans ce sens-là, il n'y a plus de famille, parce que la famille devient un empêchement à la réalisation de soi, à l'obtention de ce qu'on veut obtenir. C'est super, super optimiste ce que je dis là, mais c'est le sentiment que la colère ambiante, je trouve que le monde est en tabarnak, puis je comprends pas exactement pourquoi. Tu vois, les gens sont en colère, le gars avec une chainsaw devant la fenêtre de la voiture, si tu lui demandes pourquoi il a fait ça, il sera pas capable de te répondre. Et les gens sont en colère. Et si on leur explique pourquoi, si on discute avec eux, probablement qu'on va trouver les racines de cette colère-là, mais en surface, on ne le voit pas pourquoi le monde est furieux comme ça. C'est ça qui crée ce rapport conflictuel-là permanent qui empêche la famille, si tu veux. Là. Okay. Fait que c'est ça.
Et alors, le steak, il est comment?
Mais ce que tu disais sur la famille, pourquoi, est-ce que ça se pourrait que ça soit parce que quand tu n'as pas une identité, mais que de plus en plus ton identité, c'est tous les symboles que tu t'associes par ta consommation. Mais là, c'est pas juste qu'il te manque des choses, c'est que tu as un manque d'être.
Ouais.
Tu sais, je pense à l'ado qui n'a pas telle paire de running shoes, qui n'a pas tel T-shirt, puis qui va dire que ça n'a pas de bon sens parce qu'il va être rejet s'il ne l'a pas. Il va passer pour... C'est pas juste quelque chose qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quelque chose qui est identifié à de l'être, à être lui. Son identité se définit par ce qu'il a les moyens de consommer.
Savoir constitutif.
Il essaye de s'acheter de l'identité. Et c'est sûr que quand tu fonctionnes comme ça, ben, la plupart des gens, compte tenu de leurs moyens, vont être enragés toute leur vie.
Oui, mais les parents, ils sont. Oui, mais les parents, ils sont là-dedans aussi, là. Je veux dire, ils sont pas. Puis moi, je suis là-dedans, puis je veux dire, puis je me pose des questions sur ce que je fais, mais je suis pas capable de m'en extraire totalement non plus. À un moment donné, tu peux être dans le déni total, puis dire tout va bien, c'est extraordinaire, vivre là-dedans, mais tu peux aussi te poser un paquet de questions, mais t'extraire de ça, puis tu peux expliquer ça à tes enfants, puis leur dire. C'est pas comme ça que tu te définis, ceci n'est pas ton identité, il y a des choses extraordinaires dans la vie qui ne sont pas ça. C'est déjà le début de quelque chose, mais j'ai presque envie de dire que tu es en train de manufacturer ton malheur comme individu parce que, c'est drôle, on parlait de la matrice tantôt, là, mais « ignorance is bliss ». Fait que, tu sais, si tu le sais pas, là, c'est ça. Fait que si tu le sais pas, ben au moins, tu sais, tu te poses pas de questions, ça fait pas mal, tu es dans le business jusqu'au jour où... Tu t'es jamais posé de questions, puis là, il se passe quelque chose qui t'empêche de jouir comme tu voudrais jouir tout le temps. Comme on dit qu'il faut que tu jouisses en permanence 24 heures sur 24, 365 jours par année, puis là, tu es en crise, puis c'est ça la colère des gens. C'est qu'on leur dit, tu vas jouir tout le temps, la vie c'est extraordinaire, il n'y aura pas de malheur, tout va bien aller, achète-toi une bebelle, sinon revire-toi de bord, il y en a d'autres. Puis là, tu te rends compte que c'est plus complexe que ça, mais t'as aucun outil pour l'expliquer ou pour te défendre ou pour l'exprimer.
Puis à la première peine d'amour, tu te suicides, comment ça se fait mais que ouais. Quelqu'un m'a dit non?
C'est ça, pour la première fois.
Mais je pense que les jeunes sont beaucoup plus brillants que ce qu'on en dit parfois. Et je pense qu'ils se construisent comme on s'est construit, pas avec ce que leurs parents leur ont dit. Ça sert à rien de leur dire quoi que ce soit. Ils se construisent en regardant ce qu'on fait. Mm-hmm. On est noyé d'une société de consommation. Comme tu le dis, c'est pas simple de s'en extraire. On peut essayer d'être un peu réticent. C'est dur d'aller au-delà de ce genre de choses-là. Puis ils sont pas plus bêtes que nous autres. Ils voient bien ce qu'on fait, puis c'est à partir de ça qu'ils vont se faire. C'est les sermons. Quand j'ai fait 5 ans dans un petit séminaire, je peux vous dire que les sermons, ça marche pas. Sinon, je serais curé, là, moi.
Ouais, c'est ça.
Parce que à chaque jeudi, le père, il va faire son spinning, même s'il est fatigué, même s'il est tous les vendredis, la mère va faire sa famille. Peu importe les circonstances, et ça, comme un exemple qui transcende n'importe quoi, donc n'importe quel désir de bédaine.
Ouais, mais j'ai envie de dire aussi que c'est toutes les choses que tu dis pas. Il y a des affaires que tu n'es pas obligé de. Des conversations que tu n'es pas obligé d'avoir devant tes enfants, qu'on finit par avoir. On traite de plus en plus les enfants comme nos amis, nos confidents. Et donc là, on les parentise parce que des fois, j'ai vu beaucoup de gens parler de leur crise, de leurs problèmes existentiels avec leurs enfants. Les parentiser, les enfants ont l'impression que c'est eux-mêmes qui ont des responsabilités envers leurs parents. Mais tu sais, il y a dans l'éducation, il y a un paquet de problèmes, mais ils font juste. Les enfants et les jeunes ne sont pas un produit. Il n'y a pas de génération spontanée. Ils apparaissent, ils sont le produit. Tu sais, c'est comme. Je vais prendre un autre exemple qui a rapport avec l'éducation avec les enfants, mais on chiale beaucoup sur les enseignants qui écrivent mal français. Mais tu peux pas. C'est vrai que c'est désolant, mais s'ils sont allés à l'école et ils l'ont jamais appris comme faux. Bien, tu peux pas blâmer ces gens-là de ne pas avoir appris comme faux à ce moment-là. Ou, tu sais, si c'était pas une préoccupation pour la génération précédente non plus que tout le monde apprenne à écrire comme du monde, bien, tu peux pas te surprendre qu'à la génération suivante, bien, on répète la même erreur comme ça. C'est ça, on hérite de ces valeurs-là.
Il y a dans tout ce discours-là, je peux pas arrêter d'argumenter parce que je peux ça. Mais il y a quand même. Parce que moi, j'ai été élevée par une mère qui. Probablement dans le concours de la pire mère sur la planète, qui m'a donné des valeurs d'ouverture, la curiosité par rapport au livre. Je racontais à Norbert toutes les visites dans les galeries d'art. Mm-hmm. Je pense qu'en tant que parent, peu importe le contexte, on a un rôle à jouer. C'est un rôle que nous-mêmes, on choisit.
C'est sûr. Mais tu sais, tu peux pas t'attendre à ce qu'une société qui vit en regardant le prochain chèque de paye, tu sais, du jour au lendemain, se découvre des responsabilités pour que les parents deviennent, pour que leurs enfants soient plus cultivés, puis que les radios les plus écoutées parlent de culturocratie à la seconde que tu donnes 5$ à la culture, etc. Tu sais, puis que tout le monde trouve ça bien épouvantable. Tu sais, il y a un climat social aussi au-delà de ça qui fabrique des parents qui, eux, fabriquent des enfants comme ils sont.
C'est une spirale. Parce que, dans le fond, quand Jean-Jacques parlait tantôt de l'adolescent qui a besoin d'avoir telle paire de running shoes, sinon il rejette. Dans le fond, moi, j'ai vécu ça. Puis on a à peu près le même âge. C'est-à-dire qu'on a vécu ça.
Pareil.
Donc, nous, on le sait, dans le fond, c'est des générations qui ont des enfants, qui ont des générations. C'est la même chose. Aujourd'hui, les jeunes professeurs proviennent d'un système où ils n'ont pas appris à écrire le français correctement, donc ils n'enseignent pas correctement.
Mais
ça va être exponentiel comme ça. Est-ce qu'on en arrive à un point? Est-ce que c'est la fin d'une époque? Est-ce qu'on peut continuer encore longtemps comme ça?
Toutes les civilisations sont mortelles. Il y en a qui prennent un peu plus de temps à mourir, là, mais.
Mais en même temps, le savoir n'était pas aussi démocratisé qu'il l'est aujourd'hui.
C'est ça.
Ça, c'est l'autre versant. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui écrivaient super bien. C'était du monde qui était allé au cours classique, qui faisait partie, bon, la bourgeoisie encore dont on parle, mais qui était issu d'une classe relativement aisée. Puis le monde ne savait pas écrire.
Non, mais la différence, c'est qu'il y avait probablement à peu près la même quantité de personnes qu'aujourd'hui qui écrivaient bien, le même pourcentage. Mm. Sauf que les autres n'écrivaient pas du tout. Fait que là, tu disais, bon, c'est anormal. Tandis que là, quand tu compares puis que tu as un idéal de démocratisation, c'est une autre chose. Mais
Dans une économie industrielle versus économie de savoir.
Tu vois, aussi. C'est ça. Puis l'autre affaire sur laquelle je voulais revenir, c'est l'idée que les... Comment on dirait ça, tu sais? On vit dans un monde qui est de plus en plus enfermé dans l'instant. Le passé, bien, c'est la semaine passée, au plus. Parce qu'avant, c'est une espèce de trou noir où cohabitent ma grand-mère, les dinosaures, le Moyen-Âge, les chevaliers. Puis l'avenir, bien, la pub nous le dit, l'avenir, c'est maintenant. Fait que t'es enfermé dans le présent. Par ailleurs, toutes les solidarités disparaissent. T'sais, bon, ta famille, oui, quand t'es enfant, t'as pas trop le choix. Mais à part de ça, bon, on a des familles d'adoption, nos amis, nos quelques amis sont nos vraies familles. Puis encore, on est très préoccupés de sa carrière, ci et ça. Les solidarités de quartier disparaissent. Puis tous les discours de référence que tu avais qui pouvaient t'enraciner, que ce soit religieux, politique, etc., c'est tout aussi en train de disparaître. Alors, qu'est-ce qui te reste? Il te reste un individu qui est isolé, puis qui est enfermé dans l'instant, puis qui n'a pas de perspective de se faire un projet. Comment tu veux? Qu'est-ce qu'il peut faire? Sa seule solution, c'est de dire, ben je vais triper. Il remplace la quête de sens par la recherche d'intensité. Et c'est à ça qu'on assiste. Chacun est dans sa petite quête d'identité. Pas d'identité. Bien, aussi, oui, d'identité, parce que l'intensité devient une façon, un substitut pour avoir une identité. C'est-à-dire un enracinement. C'est-à-dire, parce qu'une identité ne peut pas être... T'sais. On n'est pas juste des monades de Leibniz, là. On est plus large que ça. Mais... c'est comme si notre civilisation nous amenait vers ça. Puis ce qui m'empêche d'être pessimiste, c'est... ben, tu sais... Regarde, on est une espèce jeune, tu sais, ça fait même pas 10 000 ans, on courait après le gibier, puis on se déplaçait dépendant de où poussaient les affaires dans les arbres. Et ça fait à peu près 10 000 ans. En termes d'évolution, là, il n'y a rien qui s'est jamais fait aussi vite. C'est sûr que quand on regarde ça de notre perspective très nombriliste, oui, mais moi, oui, c'est sûr que là, l'évolution va un peu lentement. Mais le problème, c'est que l'évolution, sa façon de fonctionner, c'est de remplacer les individus par d'autres qui sont un peu mieux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais c'est de même, l'évolution. Alors, oui, c'est normal d'être frustré, des fois, mais je regarde... regardez juste... qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la santé il y a juste 150 ans? Regardez la grandeur moyenne des gens. Regardez les taux de mortalité. On a fait du chemin.
Ça pose
on ne l'a malheureusement pas fait partout. On a fait beaucoup de dégâts sur la planète, oui. Mais tu sais...
parce qu'on attend un pinacle, en fait, là, pour normalement, la génération suivante devrait avoir une espérance de vie moins grande que pour la première fois que celle de ses parents. Ou ils vont être moins grands. Il y a peut-être c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'on est à la fin est-ce qu'on atteint un point de rupture? Là?
Ah, moi, je trouve ça prétentieux de dire ça. Là. J'ai un peu de misère avec ça.
Pronostic.
Ah, mon pronostic, c'est que non, c'est pas fini. Puis, mais ça veut pas dire, à un moment donné, tu peux pas toujours évoluer selon une courbe qui est croissante, qui va bien, tout ça. Ça veut pas dire qu'il y a pas des reculs. Là, on vit un âge d'or, là, incontestablement, là, de l'humanité. Tout est tellement plus facile, surtout pour nous ici en Occident. C'est tellement confortable. C'est inédit, là. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression que ça peut juste... finir par tomber, mais il y a pas mal d'intérêts qui font que, finalement, à chaque fois qu'on pense qu'il y a une crise, que ça va être épouvantable, que, finalement, elles se résorbent toujours, ces crises-là. Elles font... il y a des gens qui payent le gros prix là, dans ça, mais le système, lui, finit par survivre. Le système, puis je dis économique, social, politique, il survit à chacune de ces crises-là, malgré tout. Donc, l'humain aussi, probablement. Je pense qu'on est extrêmement résilient comme espèce, puis je crois pas qu'on ait atteint un déclin ou que ça se peut qu'on ait un recul, il peut être important, ça se peut qu'on...
Mais ça se peut que l'Occident soit une expérience qui va apporter des choses, mais qu'on a intérêt à éliminer pour que ce qui va en rester va être, pouvoir être repris de façon plus intelligente par d'autres. Regarde, l'Empire romain, quand il est tombé, là, ça a fait dur à un moment donné, le Moyen-Âge, ça n'a pas été drôle, tu sais, il y a eu une couple de siècles pas très drôle. Tu as eu la... Bon. Mais c'est sûr que quand tu regardes ça du point de vue de l'individu, c'est donc effrayant, 3 siècles de malheur. Oui, c'est sûr, tu ne survivras pas. Mais... Ben c'est ça, c'est exactement, ouais. C'est exactement ça. Mais ils proliféraient jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Là, ils ont décidément, justement, regarde, comment t'expliques qu'ils étaient si brillants, qu'ils nous ont quasiment tout donné puis qu'ils sont devenus si stupides? Pour une raison très simple, ils ont arrêté à un moment donné, ils ont dit « Non, l'imprimerie, on veut pas. » Pendant 300 ans, ils ont interdit les livres. Parce que ça, c'est pas correct. On peut pas, c'est associé à l'image, on peut pas faire des images de la parole, tout le kit. Puis, on a pris le relais, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. C'est exactement, je dis pas rien qui est contraire à ça, là. Je suis bien d'accord. Puis avant, tu regardes, les Grecs, c'est les Romains qui ont pris, les Romains sont tombés. Pendant que les Romains tombaient, les Arabes ont pris la relève. À peu près tous les textes grecs qu'on a, et même romains dans certains cas, c'est parce que les Arabes les ont gardés, puis ils ont traduits, puis ils les ont donnés. Mais à un moment donné, ils ont eu comme
un
blocage, puis là, non, on ne veut plus rien savoir de ça.
Pendant un moment, on a presque posé une griotte d'espoir sur le Sunday.
Donc, ben oui, il y a de l'espoir, mais pas nécessairement pour l'Occident tel qu'on le connaît.